Un petit clin d'œil pour ceux et celles qui étaient avec nous il y a quelques semaines en arrière au Chambon-sur-Lignon et qui ont déjà entendu ce partage. Donc voilà. Mais c'est pas mauvais de réécouter et de repartager. Je le refais. Il y avait un frère bien-aimé qui disait, pour les plus anciens, il y a trois manières de lire la parole. Comme ça ? Comme ça et comme ça. Vous avez compris? Comme ça et comme ça. Donc on peut lire la parole. Il y a des érudits de la parole qui la connaissent mille fois mieux que nous tous réunis et qui pourtant ne sont pas chrétiens, ne sont pas sauvés. D'accord? Donc il y a manière et manière d'apporter, de s'approcher de la parole. Souvent on dit, quand nous débattons un peu entre nous, entre responsables qui partagent, qui sont là devant le micro, c'est pas ma tasse de thé, mais je le fais quand même, c'est de savoir qu'est-ce que je vais retirer, qu'est-ce qu'au quotidien, cette parole, elle va m'apporter, il faut que la personne ou ceux et celles qui ont entendu, eh ben, il faut qu'elle ait quelque chose à construire et à se rappeler de cette parole, que ce ne soit pas quelque chose de simplement, purement de l'érudition, mais c'est quelque chose qui nous parle. Alors, je vais vous lire un verset que je pense que vous connaissez tous, qui est dans Jérémie 29, qui est le verset 11. Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Vous avez déjà entendu parler de ce verset quand même. Oui, n'est-ce pas? C'est souvent un petit verset qu'on va donner à l'occasion d'un baptême ou à l'occasion d'un... d'un mariage ou quelque chose comme ça, on donne un petit truc comme ça, voilà. Tu peux afficher le slide, vous allez voir le plan un petit peu que je vais essayer de vous partager avec vous ce matin. Voilà. Les projets et les plans de Dieu ne sont pas forcément les miens. Toujours lire les Écritures dans leur contexte. Et puis on verra un peu plus loin ce que l'on peut... voir aussi, mais les choses la plus importante qu'il faut se rappeler ce matin, c'est toujours lire les Écritures dans leur contexte. Et les projets, les plans de Dieu ne sont pas les miens. Et puis surtout le plus important, le 7, hein, Dieu est souverain, il est assis sur son trône. Je me place dans la lecture de ce texte en tant qu'enfant de Dieu, on est là nombreux ce matin. Donc, mettons nos lunettes. Je vous raconte une petite anecdote. Jérémie 29 est l'une des promesses, souvent, les plus mal comprises de toute la Bible. A dit un jour un de mes professeurs, c'était un étudiant. J'ai hoché la tête en l'entendant, c'est-à-dire, oui, effectivement, je comprends ça, mais pour être honnête, sans vraiment comprendre ce qu'il voulait dire, qu'y a-t-il de faux à appliquer ce verset pour ma vie, pour mon quotidien? Voilà comment j'ai appris cette leçon, dit cet étudiant, d'une manière un peu dure. J'ai reçu cette promesse quand, à la fin de mes études supérieures et longues, on m'a offert une carte de vœux où figurait ce verset. Naturellement, je savais exactement ce que l'avenir et l'espérance selon Dieu voulait dire pour une personne dans ma situation, brillant étudiant, terminé tout ce qu'il fallait, l'Éternel allait pouvoir me donner des choses extraordinaires. Il allait me donner une situation magnifique. J'avais déjà commencé à chercher et le verset de Jérémie a boosté ma confiance. La pêche, comment dis-je. J'ai passé la majeure partie de l'année suivante à essayer de trouver du travail. J'ai envoyé des centaines de courriels, des dizaines de curriculum vitae, des lettres de motivation, toutes soignées les unes les autres. J'ai perfectionné ma stratégie de relance téléphonique. J'ai eu quelques bons entretiens, mais j'ai pas eu d'offre. De cette manière assez pitoyable, mes échecs pour trouver un emploi ont suscité une crise. Une crise de foi. Mais qu'est-ce qu'il attendait? Pourquoi il ne me répondait pas? Je me suis demandé. Où en était mon avenir et mon espérance, tant promis par ce verset? Pourquoi Dieu ne m'avait-il pas procuré un travail? En attendant les réponses à ces questions, je me suis plongé dans la parole et j'ai appris, j'ai commencé à lire un peu plus précisément ce qu'il y avait dans ce Jérémie 29, un peu plus loin. Toujours, en introduction, toujours lire les Écritures dans leur contexte. On le sait tous, c'est facile, il y a même des gens très spécialisés là-dedans qui vont vous prendre un ou deux versets et puis qui vont vous promettre des choses extraordinaires. Hein. Par exemple, il y a des fausses doctrines qui ont été construites là-dessus, l'évangile de la prospérité, David nous en a parlé il y a quelques moi en arrière, hein, c'est-à-dire on vous dit si vous ne prospérez pas, si vous ne gagnez pas d'argent, si vous n'êtes pas riche, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. On sourit comme ça, mais c'est manipulateur et c'est extrêmement dangereux au niveau de sa foi. Et je peux vous dire que tous les uns les autres, moi j'ai la grâce de pouvoir fréquenter plein de milieux évangéliques, hein, depuis tout le paysage. Voilà. L'Écriture dans son contexte, complètement. Alors, pour mieux comprendre Jérémie 29, eh bien, j'ai été obligé de regarder ce qui se passait, notamment avant. Le texte raconte une confrontation entre Jérémie et un autre prophète qui s'appelait, dans Jérémie 28, celui d'avant, Anania. Ça vous dit quelque chose, Anania ? Le contexte, Anania et Jérémie, ils sont debout dans le temple qui est vide parce que les Babyloniens ont saccagé la ville quand Anania fait une promesse audacieuse au chapitre donc 28. Dieu va restaurer Israël dans 2 ans. Allez, 28. Anania se présente devant le peuple, d'accord, et dit « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je brise le joug du roi de Babylone. Encore 2 années, je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nabuchodonosor, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. » Déportation, hein, il n'a pas emmené que ce qu'il y avait dans le temple, hein, il y en a beaucoup qui était là-bas. Jérémie, donc vous voyez un peu la situation dans le temple, les deux prophètes. Jérémie le prophète répondit à Anania, le prophète, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Donc ça s'est fait devant témoins. Hein. Jérémie le prophète dit, « Amen, que l'Éternel fasse ainsi, que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées, et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison et tous les captifs, bien sûr. » Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Dans 2 ans, le temple va être complètement restauré. Les déportés à Babylone, ils reviennent. Amen. Alléluia. Je suis un prophète extraordinaire. J'annonce de bonnes nouvelles. Verset 7, Jérémie poursuit. « Seulement, écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple, dit Jérémie. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé comme des pays, contre des pays puissants et des grands royaumes, et la guerre et le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu véritablement comme prophète. Alors Anania le prophète enleva le joug. Je saute un peu plus loin, je vais aller à partir du verset 15 maintenant. 15, Jérémie 28. Et Jérémie, le prophète, dit à Anania, « Écoute, Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé, et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. » C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, dit Jérémie, « Voici, je te chasse de la terre, tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. » Et Anania, le prophète, mourut cette année-là dans le septième mois. Je vous laisse tirer les conclusions. Prenons de la distance par rapport à ce qu'on peut entendre, par rapport à ce qui peut être professé. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit qu'un jour, et je pense à la fin des temps, quand ça va arriver, il y aura une foule de faux docteurs et il y aura une foule de gens qui se laisseront embarquer par des fausses doctrines. On a tous connu, il y a une vingtaine d'années en arrière, c'était l'annonce du retour du Seigneur, hein, calculé avec des choses scientifiques, tout ça basé sur la renaissance du peuple d'Israël, hein, en 1946, et on disait c'est tout bon. Ça va arriver. Soyons prudents, l'Éternel règne. Donc vous avez vu ce qui s'est passé, et voilà le contenu un peu plus de la lettre que Jérémie va envoyer aux déportés. Voici le contenu de la lettre, donc chapitre 29, que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nabuchodonosor avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. D'accord ? Le prophète, il envoie la lettre à tous ceux qui sont déportés là-bas. Les versets que l'on va lire maintenant sont juste avant, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. On est d'accord, hein ? Tous les versets qu'on va lire, c'est juste avant. Je commence à partir du verset 4. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez-en les fruits, prenez des femmes, engendrez des fils et des filles, prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-vous là où vous êtes, ne diminuez pas. Il dit ça à ceux qui sont en déportation. Hein. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous, par vos devins, n'écoutez pas vos songeurs, ou certains disent n'écoutez pas vos songes ou vos rêves. Je ne sais pas s'il y en a ici qui connaissent, mais il y en a tout à fait qui sont capables de vous dire « J'ai eu un songe cette nuit. » Voilà. Et il y a des gens qui croient. Et ça peut amener à des catastrophes psychologiques au niveau des gens. Frères et sœurs, toujours lire la parole dans son contexte. Quand vous entendez Guy Four qui parle là, ou peu importe, s'il y a quelque chose qui vous chagrine, qui ne vous va pas, lisez, posez des questions. interpellez-vous. C'est de notre responsabilité d'enfant de Dieu de regarder la Bible, la parole de Dieu dans son contexte global. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, pas 2, 70, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. La promesse de l'Éternel, quand on lit ce qu'il y a avant, elle prend quand même une autre, toute autre dimension, notamment dans la recherche de la réalisation d'une prière ou des choses comme ça. Dieu est capable, effectivement, de répondre instantanément, mais il est assis sur son trône, il est souverain. Lisons cette parole avec des yeux d'enfant de Dieu, en connaissance du contexte global de toutes ces choses. Alors, je regarde. Ça va. Je vais revenir un petit peu donc sur le point numéro 3 pour tirer un peu des enseignements. Soyez mes témoins en toutes circonstances, je dirais, les versets 4 à 7. Je relis les versets 4 à 7. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bon, rien que déjà ce verset-là, il m'interpelle, quoi. Il les a emmenés en déportation. Et là-bas, il leur dit, soyez mes témoins, bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez-en les fruits, prenez des femmes, engendrez. L'Éternel, il ne leur a pas dit, imaginez un plan pour pouvoir vous évader, pour pouvoir revenir à la maison ou quoi que ce soit. Il leur dit, je vous ai placé là, vous êtes mon peuple, soyez mes témoins. Quelles que soient les circonstances où on se trouve, Dieu nous demande d'être ses témoins, son témoin. Les versets 8 à 9 qu'on a lus, 8 à 9, c'est attention aux faux prophètes. Alors, ce faux prophète, c'est vrai que c'est des mots qui ne sont peu ou pas employés dans nos assemblées, dans nos milieux, mais il y a des milieux, effectivement, je le dis, où vous avez des prophètes, où quelqu'un va se lever et il faut interpréter ce qui va être dit. Bon. J'aime tous mes frères et sœurs. J'ai vécu pendant 7 ou 8 ans dans des milieux un peu comme ça, sans s'être accroché à la parole. D'accord ? Attention aux faux prophètes. Nous avons la chance, nous avons la grâce d'avoir la parole de Dieu, d'avoir des sœurs, d'avoir des frères matures dans la foi vers qui on peut s'adresser, poser des questions, dire mais pourquoi si, pourquoi ça, moi j'ai pas compris, voilà, qu'est-ce qui se passe, j'ai entendu ça. Passons attention aux faux prophètes. Les versets donc 10 à 12. Mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant à ce lieu, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Et le verset 12, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Dieu exauce toujours ses promesses. Toujours. impossible de trouver une promesse énoncée par Dieu qu'il n'a pas tenue. Et toutes celles qui sont à venir, elles sont sûres, je ne sais pas quand, mais elles seront réalisées. Dieu réalise toujours ses promesses. Les versets 13 à 14. Lisez bien ces versets que moi j'ai l'impression que je vois un peu Christ à travers ces deux versets et puis le futur déjà de ce qui est annoncé, du plan merveilleux. Verset 13. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça vous rappelle pas quelque chose ça dans votre démarche personnelle ? Vous me chercherez. Dans cette salle, il y a des gens qui cherchent. Je ne sais pas, je ne les connais pas, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui cherchent. Dieu vous dit, vous me trouverez si vous me cherchez en toute sincérité et de tout votre cœur. S'approcher de Dieu en toute sincérité. Et Dieu dit, Dieu, pas n'importe qui, hein. Dieu dit, verset 14, « Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, je ramènerai vos captifs. » Alors, c'est pareil, hein, pour une expérience personnelle, on dit que quand on rencontre Jésus-Christ, on change d'esclavage. On est esclave du monde et notre nouveau maître, c'est Jésus, on est bien d'accord. Donc, tu étais captif de ce monde, et maintenant tu es captif de Dieu. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux que je vous ai chassés, dit l'Éternel, je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Je vais m'arrêter là au niveau de la lecture. Voilà le plan de Dieu déjà est un petit peu concernant ses enfants. On s'approche de Dieu en toute sincérité. Joao nous a dit que l'Éternel voit nos cœurs. Il a vu les cœurs de Caïn et Abel. Voilà. Donc approchons-nous de Dieu en toute sincérité. Cette vision de Christ à venir dans les versets 13 et 14. Je ne vais pas prolonger plus longtemps. J'ai terminé ces lectures et ce partage en disant que n'oublions jamais que nous avons un Dieu qui est souverain. Souverain. Ça veut dire que légitimement, on peut crier à lui. On peut lui demander des explications ou des choses comme ça. Mais il y a un moment, c'est lui le roi. Il est assis sur son trône. C'est lui qui règne. On voit que il y a aussi une autre conclusion qu'on peut tirer. C'est que assez facilement, et moi le premier, j'ai tendance à essayer de, en tirant deux, trois petits versets comme ça, là, à me construire, pardonnez-moi cette hérésie, une image d'un Dieu qui me va bien, qui me correspond, adapté un peu à ma personnalité, adapté à ce que je voudrais, j'aimerais bien qu'il soit comme ça. Frères et sœurs, Dieu, il est comme il est assis sur son trône, avec plein de questions, tout ne nous est pas révélé aujourd'hui, mais par contre, comme des enfants, on s'approche de lui, on a cette grâce d'avoir cette parole révélée, c'est pas que du papier ou de l'encre et du code dessus, c'est vraiment la parole de Dieu. Est-ce que tu peux, si je me trompe pas, projeter le psaume 29, je crois. David, dis-moi, aide-moi, psaume 29. Voilà. Tu peux le projeter, le psaume 29? Vas-y, passe au suivant. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous s'écrient gloire. Verset 10. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. Frères et sœurs, vous connaissez peut-être mieux la parole de Dieu que moi, mais au niveau de la souveraineté, quand vous lisez un verset comme ça, l'Éternel était assis sur son trône pendant le déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Prions. Seigneur, merci pour cette grâce, cette liberté que nous avons de pouvoir nous plonger dans les Écritures, Seigneur, avec les regards d'enfants, avec l'Esprit Saint que tu as placé en nous. Seigneur, merci de nous rappeler ô combien c'est important de revenir à toi, Seigneur, de nous rappeler toute ta souveraineté. Seigneur, de pouvoir nous appuyer sur ta parole, sur toute ta parole, avant de fonder nos vies, avant de prendre des décisions. Seigneur, tu nous rappelles ô combien autour de nous, il y aura des faux docteurs, il y aura des fausses doctrines. Seigneur, nous avons un ennemi qui se réjouit de nous voir partir dans des situations dans des directions qui ne sont pas les tiennes. Seigneur, merci de nous donner encore cette possibilité de lire, de méditer ta parole, Seigneur, et de ne pas la survoler, que nous puissions prendre le temps de l'approfondir, Seigneur, pour nous nourrir, parce que tu t'adresses à tes enfants chaque fois que nous nous imprégnons de ta parole. Seigneur, merci encore pour ces instants, pour ces partages, Seigneur, et reçois encore notre amour, notre adoration, et sois béni dans le beau nom de ton Fils Jésus. Amen, Seigneur.